une création.
Blast.
Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires.
Il se passe quoi ?
Septième épisode.
Il se passe quoi ?
À Trénas, en Ardèche. Une balade au sein de la communauté de Longomaille. Un reportage d'Alexandre Hérault et de Vincent Deck. On est accueillis par des dindons. C'est pas aussi con que ça, un dindon.
Non, les dindons, ça protège. Notamment, quand il y a eu la descente de gendarmes, c'est les premiers qui sont mis en face pour les arrêter. Suite aux chiens qui ont été abattus, là, ici, de chasse.
En Ardèche, les vieux démons qui hantaient le paisible village de Saint-Martin de Valamas se sont réveillés. Il y a 4 mois, un grave accident de chasse a opposé 2 habitants de la vallée à un membre d'une communauté qui suscite crainte et fantasmes depuis près de 50 ans. Cette communauté, les Longomailles, vit à l'écart, dans ce hameau. Une coopérative agricole d'une 20aine de personnes au mode de vie alternatif, qui traîne un lourd passé. En 1977, son fondateur, Pierre Conti, tue un gendarme et 2 civils en marge d'un braquage de banque. Condamné à mort par contumace, Pierre Conti s'est volatilisé et fait depuis l'objet d'un mandat d'arrêt. Son fils, Manuel, qui avait 4 ans à l'époque, vit toujours dans la vallée. C'est lui qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'une affaire dans laquelle il est poursuivi pour violence et pour la mort de 7 chiens.
C'est donc par un fait divers qu'encore une fois, Longomaille est ostracisée. Ça dure depuis plus de 50 ans. Longomaille, c'est une coopérative agricole, pas une secte où l'on ne sait quel lieu fantasmé, entouré de craintes et de peurs. On ne dit pas les Longomailles, comme on dirait les sauvages ou les hippies, n'en déplaise à TF1 dans ce reportage de 7 à 8 d'avril dernier. On dit plutôt Longo, au singulier, quand on est un peu familier ou tout simplement informé sur ce mouvement international né au début des années 70 en Suisse. On était en pleine explosion du hippie power, de la contestation sociale, certes, et des mouvances alternatives qui ont toutes, il faut l'avouer, explosé en vol au fil des décennies. Sauf Longo. Il faut le dire et le répéter. Longo, qui porte bien son nom, celui de cette expression en vieux provençal, que ça dure longtemps. Longomaille, eh oui, depuis 52 ans, c'est, sans prosélytisme, une parole différente qui est portée par cette communauté de 200 personnes qui essaiment à travers une 10aine de collectifs en Europe et dans le monde, dans des fermes autogérées comme celle de Trénas. L'espoir de vivre et produire de manière différente, plus près de la nature, plus loin du vacarme, du monde, et tout leur donne raison aujourd'hui. Alors allez les voir pour comprendre qui ils sont et ce qui les habite. C'est cela qu'on va faire en n'évacuant pas d'emblée ce qui avait braqué les projecteurs sur eux en décembre dernier. Cette journée sinistre du 16 que nous racontent Lolo, Sandra et Emmanuel d'une seule voix.
Bah nous on reste en fait comme des bouche bée, parce qu'on voit des chiens arriver avec leurs clochettes un peu speed, qui rentrent dans le parc des cochons. Et ils ont commencé à les déchiqueter vivants, quoi. Mais très très rapidement. Hein. Nous, tant qu'on arrive, c'est quelques minutes de marche, si on était à 300-400 mètres. Donc, comme des cons, on se jette dans la mêlée. On se jette dedans, à coups de pied et des cailloux, on essaie d'intervenir. Bon bref, on n'arrive pas à les arrêter. Ils étaient quand même 10aine. Ils encerclent les cochons, il y en a 3-4 qui sont dessus, 4-5 même, qui les déchiquetent. Et dès qu'un cochon s'échappe, hop, ils le ramènent. Et bon, ils éclatent les cochons. Et là, à un moment donné, moi, je reste abasourdi et je me dis, bon, le seul moyen, c'est de tuer les chiens, en fait. Donc, je suis parti, je suis monté à la maison à pied. Ça fait plus de 4, ça fait au moins 400 mètres en montée. Et donc, je prends la carabine et je redescends hélico avec une bagnole. Et là, quand j'arrive, je tire 2-3 balles en l'air et au sol pour effrayer les animaux. Et ça ne marche pas du tout. Ce qui fait que là, à un moment donné, je dis, bon, il n'y a pas d'autre choix, il faut que j'en tue, quoi. Je demande à Sandra de partir, qu'elle ne voit pas ça, quoi. Donc elle remonte chercher les copains et tout. Et là, je tue les chiens. J'en tue 5, je crois. 4 ou 5. Et après, tout s'arrête. Donc les chiens restants partent. Et au bout de quelques secondes, il y en a 2 qui reviennent et qui rattaquent. Donc j'ai dû tuer les 2 autres chiens. Et ce qui fait qu'il y a eu 7 chiens tués, quoi.
Cette arme à feu, cette carabine, elle sert à quoi habituellement ?
Il y a des fusils dans toutes les fermes. Ça sert, une bête est malade, il faut l'achever. Le veto ici, il vient au bout de 3 jours que tu l'as appelé. Quoi. Donc voilà, tu l'achèves avec ton fusil. C'est pas un fusil qui sert à tuer des chiens normalement. C'est pas nous qui sommes allés avec nos cochons dans leur parcelle pour attaquer leurs chiens. Quoi. Il y a un moment, c'est quand même incroyable, parce qu'il y a des procès d'intention qui se font systématiques. On a des gens qui nous emmerdent à l'école vis-à-vis des gamins. Enfin, il y a vraiment des gens qui sont tordus avec tout ça. Et après, voilà, moi j'ai insisté pour que ça ne reste pas là, qu'on se recroise pour discuter de tout ça, machin, ce qui n'a pas pu être fait. Aucun des chasseurs a voulu qu'on se rencontre une seule fois. Après, je pense qu'ils se sont tous montés la tête et ils ont décidé de faire une chasse aux sorcières. Quoi. C'est pas Langomaille, pas Langomaille, c'est rien à voir. En fait, c'est des gens qui habitent quelque part, qui se font attaquer leurs bêtes, ils défendent leurs bêtes. La méthode est discutable, peut-être. J'aurais pu ne pas avoir d'armes. Mais on ne pouvait pas laisser des bêtes se faire tuer sans rien faire, c'est sûr. Tous les paysans font ça, quoi.
Sauf que le problème, c'est, on revient à cette histoire-là, de fantômes, c'est toujours compliqué d'être fils d'eux.
Il y a certains qui sont fils d'alcooliques, c'est pas pour ça qu'ils sont alcooliques. Voilà, moi j'ai pas de honte d'être le fils de quiconque, hein. C'est comme ça, la vie, de toute façon, on n'a pas le choix. Et ouais, évidemment, ça fait ressurgir un truc, mais ça fait quand même presque 50 ans hein, que mon père, il a tué des gens. Et en plus, bon, c'est un fantasme, hein, c'est un fantasme de la part des gens, les journaux aussi, ils ont fait leur chou gras avec, ça n'a rien à voir, quoi. Et après, sur le côté médiatique dans les journaux, le Dauphiné fait le premier article en nous téléphonant en plus avant pour savoir ce qui s'est passé à peu près. Et malgré tout, ils font un article en ligne avec évidemment la caricature, le fils Conti, ils n'ont pas le fils Conti, ils disent Conti, machin, enfin ils mélangent tout. Bon, c'est n'importe quoi, c'est de la presse à sensation, quoi. Voilà, c'est tout.
Les gens qui vivent ici, c'est pas Pierre Conti. Bon, il y a Lolo, qui est le fils de Pierre Conti, mais je veux dire, c'est Lolo, quoi. Et Lolo, il ne se singularise pas uniquement par le fait d'être le fils de Pierre Conti. C'est quelqu'un qui vit ici et qui accueille des gens, qui transmet des choses, qui existe par lui-même. Enfin, et voilà, c'est Lolo.
On passe notre temps à être agressé sur des thèmes. Le fait de ne pas être salarié aujourd'hui, par exemple, c'est rien que ça, on se fait agresser. Verbalement ou juste comme ça, avec le regard. Quoi. Mais c'est quelque chose qui dérange. Ça ne nous arrange pas, les relations sociales.
Mais comment on peut interpréter la réponse policière par rapport à ce simple fait divers ? Comment on peut interpréter cette réponse disproportionnée ?
Disproportionnée, moi, je pense qu'elle est... Il y a tout un contexte. Alors, il y a déjà les soulèvements de la terre. Et voilà, donc Langomaille est en tout cas proche de cette mouvance, et on ne le cache pas, en plus. Mais là, pour le coup, c'est une réponse clairement... au moins la préfète, voire peut-être plus haut, de s'intéresser à Trenas. On est repéré en tant que Langomaille. Et ensuite, se passe ce truc comme ça qui, pour eux, se dit « Ouh, est-ce que c'est un acte ultra-violent qui se déclenche ?» Donc là, ils s'intéressent à nous. Et la proportion militaire, elle est disproportionnée. Il y avait vraiment l'envie, au départ, de cercler tout le village, de vraiment tout fouiller. Ils sont venus quand même avec 3 brigades de PSIG, 3 gendarmeries différentes. Il y avait la BRI. C'est quand même pour les meurtres plutôt. Il y avait une brigade cynophile pour trouver la drogue, l'argent et les armes. Quoi. C'était voilà, grosse Bertha. Quoi. Et donc c'est un message assez explicite. Voilà, tous les gars en gilet pare-balles, machin. Nous, on a vécu pas mal de perquisitions sur Trenas et dans Langomaille. C'est toujours pour rien. Il ne faut quand même pas oublier qu'à chaque fois, c'est chou blanc. Quoi.
Moi, j'ai même envie d'ajouter, ce qui est grave, ce qui s'est joué, c'est. Et avec l'histoire qu'on a ramené l'affaire Conti. Et la manière de nous présenter, c'était carrément une anonymisation. Ça veut dire qu'on était un groupe de hippies en autarcie, tu vois, mais vraiment les déglingués.
Les marginaux.
Oui, mais c'est un peu comme on dit les migrants, quoi, tu vois. Là, c'est les marginaux. Et en fait, s'il nous arrivait quelque chose, c'était pas grave, en fait. On le méritait presque, en fait, d'avoir des représailles. Parce qu'on est des fous furieux. On a fait un guet-apens pour... c'est ce qu'ils disent, qu'on attendait que ça, et que c'était un piège hein, qu'on a mis en place pour pouvoir tuer du chien. Sur les réseaux sociaux, c'est parti à fond les ballons. Ça a quand même été récupéré, entre guillemets, par l'extrême droite. Parce que t'as quand même eu beaucoup de... Ouais, de milieux d'extrême droite qui ont commencé à dégueuler là-dessus, quoi. Il y a même des gens qui appellent à venir nous faire la peau, quoi. À venir faire des représailles. Et jamais, vraiment, on nous a laissé nous exprimer individuellement sur ce qu'on a vécu, en fait. c'est le fait divers en fait qui a pris le dessus. Et jamais on a vraiment parlé de nous, ce qu'on veut vivre ici. Tu vois, quand il dit on n'aime pas trop la chasse, on n'aime pas trop cette chasse-là, quoi. Parce qu'il y a des manières différentes de chasser. Et le truc de la meute que tu balances avec des chiens qui courent derrière des sangliers et qui les bouffent vivants, tu vois, ça, non, bah, c'est difficile à observer, tu vois, sur ton territoire, quoi. Ou des mecs qui se baladent avec des fusils au milieu de ton troupeau de vaches, parce que c'est une réalité. C'est ça qui se passe. Et ils n'ont pas le droit. Mais ils le font quand même. Et ce qui est aberrant, c'est que, pour rebondir sur les chasseurs de la région, ils ont tous la trouille. Il n'y en a aucun qui va venir témoigner au procès pour dire qu'ils ont des bonnes relations avec nous, parce qu'il y en a plein avec qui on a des bonnes relations.
En fait, c'est la fédération leur a mis une telle pression qu'ils n'ont pas moyen de s'exprimer en fait librement de ce qu'ils pensent et ce qu'ils vivent, quoi.
Fédération qui ne répond pas à nos demandes.
Moi, c'est ça qui me choque, c'est que finalement, toi, tu vis ici, tu essayes de mettre en place une vie qui pour nous paraît plus respectueuse, tu vois, par rapport aux animaux qu'on élève. On n'utilise pas de chimie sur nos terres, tu vois, on produit notre alimentation. Pareil, la forêt, on veut pas de coupe rase et on veut y travailler. À côté de ça, on te renvoie une image de gens sectaires, violents, qui gênent.
Je pense qu'il n'y a personne qui est préparé à vivre ça. Des menaces au téléphone, des menaces sur les réseaux sociaux, sur Internet, directement à nos enfants. On a dû retirer, enfin moi j'ai retiré mes deux enfants du collège pendant une semaine parce qu'ils se faisaient poursuivre dans les couloirs par d'autres enfants. Les parents d'élèves qui envoient leurs enfants dire à mes enfants qu'ils ne pouvaient plus être amis à cause de ça, enfin bref. Mais c'est vrai que de devoir gérer ça, personne n'est préparé en fait.
Comment on va se préparer d'ailleurs à ce procès en novembre prochain?
Je crois qu'on a tous besoin d'une pause. Je préfère largement qu'on parle de ce qu'on fait ici, de notre rapport à la terre, à la forêt, aux fleurs, à tout ce que tu veux, plutôt que de cette histoire de chien de chasse, en fait. Puis notre manière d'habiter le territoire avec le voisinage, nos luttes aussi, de ce que ça veut dire respecter le vivant, en fait, tout simplement. On n'a pas la même notion avec les chasseurs de ce que c'est que de respecter le vivant. Mais ça, c'est pas une bagarre qu'on va gagner tout de suite, je pense.
Il y a des moments où tu restes là, Lolo, et tu l'écoutes, cette nature, tu les écoutes et tu les décryptes, ce qui se raconte.
Moi, j'ai un problème de contemplatif aussi, donc effectivement, des fois, je reste bloqué. En plus, c'est un paysage ici volcanique, alors il y a des gros amas de pierres comme devant, des montagnes de rochers, quoi. Une végétation assez luxuriante, on est quasiment à 1000 mètres. Ce printemps, il est super humide, on a des terres noires, là, très riches, et il y a un foison d'animaux ici, il y a même des aigles, des vautours. Là, on entend un vieux coucou, là. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux, et de plus en plus. Et c'est vrai que d'avoir réduit nos élevages de moutons, et on avait beaucoup plus de moutons avant, d'avoir interdit la chasse, d'avoir réussi à calmer un peu, disons, les activités locales dans le périmètre qu'on utilise, ça a apporté beaucoup, beaucoup de sauvages. Ici, on va dire qu'il y a à peu près un tiers de forêt, un tiers de pâturage, un tiers agricole, quoi. Ce qui laisse une bonne partie pour les bêtes sauvages, quoi. Ça va. La montagne qui est devant nous, elle était complètement à nu, surpâturée à fond. Elles étaient quasiment toutes rasées. Et donc, en une quarantaine d'années, hein, que je me souvienne, ça a quand même bien, bien reverdi. Et c'est un bon contraste avec les paysans qui sont un peu plus loin, où on voit qu'ils continuent de raser les haies et de brûler tous les talus.
Le Longomaï que j'ai connu, moi, il y a 44 ans, déjà, il faut imaginer Longomaï à ses débuts. Je veux dire, moi, quand je suis arrivée, j'avais 17 ans. Et peut-être les plus âgés, à l'époque, ils en avaient 27. Et en fait, c'était une bombe atomique. Il y avait une énergie incroyable. Et puis, tu sais comment c'est. Quand t'es jeune, t'es rapide. Tu vas vite même à juger. Ou tu vois. Enfin, t'as pas l'expérience du vécu. La différence maintenant, c'est qu'à Longomaï, on a des gens qui vont avoir 80 balais. Et on a des bébés qui naissent. Et donc, il y a un mélange de générations qui fait que c'est pas toujours évident de se comprendre entre générations. Mais je pense qu'il y a une douceur qui s'est installée, et puis aussi du recul, tu vois, de l'expérience, parce qu'il y a encore des anciens. Et il y a tout ça qui se mélange. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait la différence. On a vieilli. Et puis on est aussi, quelque part, devenus vraiment... Il y en a qui sont vraiment devenus paysans ou artisans. Tu vois, on venait tous de la ville. On avait beaucoup de... C'était très intellectuel, notre démarche. On voulait casser une manière de vivre. On voulait du collectif à tout prix. Mais on n'avait pas été éduqués comme ça, donc il fallait le créer. Et des fois, ça pouvait être même violent contre nous. C'est l'ambiance de l'époque, je veux dire, dans tous les mouvements de gauche, quoi. Et un peu partout dans le monde, hein. C'était vraiment cette recherche du collectif, des coopératives... plus d'autogestion, plus de liberté d'expression, de casser le patriarcat, la famille, les hiérarchies. Et en fait, ça se fait pas comme ça si facilement. Tu vois, théoriquement, ouais, il faut le faire. Mais après, dans la pratique, c'est quelque chose qui s'expérimente et qui, des fois, ouais, peut être difficile, quoi, dans le temps à porter.
Dans cette maison, là où tu es né, Lolo, il y avait marqué quelque part, ou je ne sais pas, on l'appelait révolution, je ne vois plus le mot.
Alors oui, le temps a effacé la révolution, c'est assez, c'est assez triste. Mais bon, on peut le remarquer, hein. Ils ne sont pas d'accord les copains.
Mais en soi, la révolution, elle est en marche ici. Parce que c'est par rapport à ce que c'était au début, bah, des propriétés privées, je pense que ça aussi, ça n'a pas été facile à vivre pour les gens. Ils avaient des petits bouts de terre, ils ne s'organisaient pas ensemble, ils ne géraient pas ensemble les terres. Ce qui s'est passé là, en fait, c'est qu'on a investi ici d'une manière plus collective. On a les choses en commun. Et je pense que ça nous donne une qualité de vie que n'avaient pas les gens avant. Voilà, parce qu'ils étaient sur un autre modèle, qui était vraiment le modèle familial, patriarcal, de la transmission par les, tu vois, à l'héritier de la terre, et qui faisait que ça morcelait de plus en plus les terres, et en fait, ça appauvrissait en fait, de plus en plus les gens. Et la révolution, elle est là aussi, c'est que nous, les terres ici, elles sont dans une fondation, et on n'en est pas propriétaire, et nos enfants n'en hériteront pas, parce qu'on refuse qu'il y ait cet appauvrissement de génération en génération, et c'est ce que vivent les paysans à l'heure actuelle, parce que les enfants ne peuvent même plus racheter les terres de leurs parents. C'est la finance qui va les racheter. Donc la révolution, elle est là, de créer d'autres modèles. Et je pense que c'est ce qu'on a amorcé ici, à Trénas, mais avec Longomaille aussi depuis 50 ans, et qui a fait des petits, malgré tout, un peu partout. Et nous, on rencontre aussi beaucoup de jeunes qui sont mis déjà de côté à l'âge de 13, même avant, parce qu'ils ne sont pas bons à l'école, parce qu'ils n'ont pas des parents qui ont du pognon, enfin, plein de raisons. Et nous, on accueille aussi beaucoup ces jeunes-là, ici, qui ont besoin de pouvoir se recentrer, de pouvoir trouver des endroits où on leur laisse le temps de faire des choix sans être sous une pression permanente par rapport à leur avenir, leur boulot et tout ça. Et on a un devoir de les rencontrer. Enfin, pour ma part, je considère que c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il y ait des lieux comme ça où des jeunes puissent réfléchir et puissent prendre plaisir à la vie sans être sous la pression de trouver un boulot, du fric d'être quelqu'un. Enfin, je ne sais pas, je n'arrive pas trop à trouver les mots, mais pour moi, ce lieu ici, il est important. Parce que tu vois, à l'heure actuelle, le gouvernement, il n'en a rien à foutre des jeunes. Ils sont en train de les massacrer, là. Ils tiennent absolument... Ils n'entendent rien, en fait. Ils imposent tout. Et c'est ça qui est important, c'est les gens qui se battent pour exister.
Au départ, Corentin, tu n'es absolument pas pâtissier.
Non, j'ai fait un stage quand j'étais au collège, mais j'ai pas de formation, quoi.
Qu'est-ce que tu prépares, là ?
Là, c'est les tartes aux poireaux pour le repas de midi.
Une journée type, ici, à Trénas, ça donne quoi ?
C'est dur à dire, il n'y a pas vraiment de journée. Chacun a ses activités, donc on a un peu tous nos horaires en fonction de si on s'occupe des bêtes, si on s'occupe du jardin, ça va pas être la même chose. Si on part en chantier de charpente. Bah c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a plutôt parlé, quoi. J'avais un peu du mal avec la rigueur des horaires des fois depuis que je suis à l'école, donc c'est vrai que ça me parlait pas mal, ce côté-là, oui.
Il y a ceux qui viennent en apprentissage ici, ils sont nombreux. Et puis, et souvent super jeunes, plus jeunes que toi d'ailleurs. Quel âge tu as ?
Moi, j'ai 26 ans.
Et puis, il y a ceux qui restent.
Bah ouais, bah, comme moi par exemple. Je suis venu en stage au début et voilà. Ça m'a bien parlé. Ça a porté ses fruits.
Ça fait combien de temps ?
Bah, mon stage, c'est quand j'avais 19 ans. Du coup, ça va faire 7 ans maintenant que je connais ici, quoi. Que je suis familier des lieux.
En quelque sorte, tu es un enfant de Longo.
Un enfant de Longo, je ne sais pas si je peux aller jusque-là, parce que moi, je suis arrivé ici à 19 ans, donc c'est vrai que j'avais déjà tout un passé derrière qui est différent, et on s'en rend compte des enfants de Longo, quoi. On peut partager certaines choses, mais peut-être j'ai un peu les deux visions de ce que peut... des choix de vie qu'on peut faire, quoi. C'est vrai que moi, j'ai déjà été salarié, j'ai déjà vu des choses comme ça. J'ai vu la vie que mes parents ont eue, quoi, qui est ce qu'elle est, quoi. Et ici, j'ai vu autre chose. Du coup, c'est vrai que j'ai une vision des choix de vie qu'on peut avoir un peu variée, quoi.
En plus, tu vois, en 7 ans, les choses aussi évoluer, puisque ça construit en permanence, puisque les projets sont là, mais qu'il faut les faire bouger. Qu'est-ce qui a changé depuis 7 ans ?
Depuis 7 ans, qu'est-ce qui a changé ? Bah, moi, ce que j'ai vu, c'est que le groupe, il évolue tout le temps. Il y a des gens qui passent, il y en a qui restent, il y en a qui repartent. Là, il y a beaucoup moins d'anciens. J'ai l'impression que maintenant, on est pas mal de jeunes à être débarqués ici. Et ça a changé la dynamique, forcément. C'est plus pareil, quoi.
Il reste des tuteurs. Lolo, Manuel, par exemple. Eux, Lolo est né ici. Manuel, ça fait plus de 30 ans.
Bah, c'est super important, ouais, cette espèce de transmission qu'il peut y avoir. Autant ça se passe sur le registre des idées, des projets, de la façon de voir la vie, que autant concrètement le territoire, les savoir-faire. Ici, bah, moi j'ai appris le bûcheronnage, des notions de charpente. Même là, je suis en train de faire la cuisine. J'ai toujours bien aimé faire ça. Ma mère, elle m'a appris des choses et tout, mais c'est vrai qu'ici, le fait de faire manger pour vin régulièrement, ça m'a bien, bien formé. Et ouais, tous ces savoir-faire, c'est les anciens qui nous le transmettent, quoi. Je vais juste regarder mes tartes, je vais pas les faire cramer.
Et surtout que ça commence à... Ça sent un peu le cramé, là. À quelle heure, Lolo, on mange ? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des rites. Oui. Il y a des interdits, par exemple. Ma bouteille de vin, je la garde pour moi.
Ce n'est pas des interdits. C'est-à-dire qu'on a choisi qu'ici, il n'y ait pas ni drogue ni alcool. Bon, le fait de ne pas vouloir de drogue, par exemple, ça, c'est un acquis de Longomaille dès le départ.
Alors qu'on vous a toujours présenté comme des fumeurs de marijuana.
Voilà, ça, c'est un peu...
Ou une secte.
Oui. En tout cas, le lieu de traînasse, on a réussi à faire qu'il n'y ait pas d'alcool. C'est surtout parce qu'on a vu les dégâts que ça a provoqué chez des amis qui sont devenus alcooliques et qui sont aujourd'hui, on doit les assumer, quoi. C'est dur. Mais c'est, voilà, encore une fois, ce n'est pas un interdit. C'est, nous, ce qu'on interdit, c'est des comportements fachos, quoi.
Qui fait à bouffer ce soir ?
Et alors, ben justement, je crois que, si j'ai bien suivi, c'est Yuri qui fait à bouffer. Et qui, j'ai l'impression, veut nous faire une vieille tambouille aux courges, mais on va voir.
Oh, on est combien ?
Ben, normalement, on est une grosse vingtaine. Et là, il y a un chantier de charpente à droite, un peu plus loin. Il y a quelques-uns qui sont en voyage. Ouais, ça bouge pas mal. Du coup, là, on est un peu moins. Je pense qu'on va être au moins 15 à manger. Et puis, il y a des gosses en plus. Voilà. Donc, il y a toujours du monde ici, mais quand on est plein, c'est bien 25. Quoi. Voilà. Il faut savoir que c'est un endroit où on reçoit vachement de jeunes. 15-16 ans, parce qu'il y en a qui viennent faire des formations scolaires pour la forêt et l'agriculture, sur des thèmes pratico-pratiques, parce qu'on fait beaucoup de jardinage aussi pour nos subsistances. Ça va aller de l'agriculture au maraîchage, à l'élevage ou à la forêt. Et donc ces gens, ils viennent pour des raisons scolaires, et parfois ils restent. Et d'autres viennent pour apprendre des choses précises, et notamment la vie en collectif. Parce que malgré nous, ça fait longtemps qu'on existe, donc il y a des petits trucs qu'on a du mal à expliquer, qui font que ça fonctionne. Mais depuis 50 ans, ça fait ses preuves, ça marche bien, quoi.
10 collectifs sur le territoire national, d'autres dans d'autres pays. On n'oublie pas que Longomaille, c'est un mouvement international.
Alors on est implanté en Ukraine, en, en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi des gens de plein d'autres pays qui sont dans nos lieux à chaque fois. Et sur ceux qui viennent faire tenter la vie collective pour piquer les recettes, ils nous piquent plein à tout ce qu'ils peuvent. Et après, ils vont l'exporter là où ils ont envie de faire le projet. Et souvent, le projet, nous, on l'accompagne, en fait. On va les aider aussi. Ce qui est prévu dans notre manière de fonctionner, c'est qu'ils vont faire leur expérience après. L'engomaille, c'est avant tout comme un... Il y a la volonté d'être un tremplin. C'est-à-dire de donner envie à des gens. Et ensuite, ils partent à l'aventure. Hein, ils rebondissent, quoi, ils vont ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a un côté aventurier. C'est vrai qu'il y a une prise de risque. Effectivement, hein, tu rates ton coup, bah, tu as tout raté. Et d'autant plus que, comme on disait tout à l'heure, il y a pas de... tu dégages, tu n'as rien. Quoi. C'est le côté aventure. En même temps, qu'est-ce qui est plus passionnant? C'est d'aller faire sa vie à l'usine avec un salaire de misère pour une retraite à la con que tu n'auras même pas réussi à défendre. Ou alors vivre un quotidien qui te met un peu le feu, là, et en plus que tu arrives à partager. Parce que...
À contre-courant.
Évidemment. Enfin, je veux dire, d'affirmer aujourd'hui que le capitalisme va se planter, par exemple, ce n'est pas vraiment une science infuse, hein, c'est évident. De toute façon, il n'y a pas assez de ressources, et donc il y en a qui vont ramasser, et puis quelques-uns qui vont continuer à s'engraisser. Mais il y aura un chaos. Il sera, j'espère franchement qu'il ne sera pas violent. C'est dur hein, de dire pas violent, parce que tout pousse à la violence, en fait, dans de partout. Il y a un moment, ce n'est pas possible de penser comme ça le monde, quoi. C'est pas une solution. Par contre, de dire, on crée un truc qui va avoir à peu près une gueule où c'est viable, mais bon, ça ne fait pas d'accumulation de richesses. Moi, je pense que c'est plus intéressant. En fait, du coup, les gamins, les jeunes, ils savent qu'il y a des endroits de respiration. Ils peuvent venir squatter. Ils peuvent venir piquer des idées et les reproduire ailleurs. Mieux vaut tenter de vivre le jour et de me donner de l'espoir. Ça, l'espoir, c'est transmissible. Mais la capitalisation, elle est ridicule. Ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais essayé d'être salarié de ma vie. Et je pense que c'est pas très sain, en fait, d'être salarié. C'est un peu se faire piquer... piquer la responsabilité qu'on a, quoi. C'est, voilà, c'est un peu dommage.
Tu préfères, Corentin, le mot collectif, puisque c'est quand même la base de cette vie ici, de cet apprentissage, que celui de communauté?
Moi, j'y vois pas de grosse différence. La grosse différence que je vois, c'est la connotation qui est dans l'esprit des gens, en fait. Et des fois, je trouve que c'est plus facile de parler de collectif, parce que ça va moins ramener à des choses religieuses ou sectaires. Mais en fait, peut-être que communauté, c'est plus exact dans notre manière de vivre, quoi. Moi aussi, quand on parle dans le langage de tous les jours, on parle de collectif. Quand on dit « fait chier ce collectif », on ne dit pas « cette communauté », quoi. Et pour moi, qui suis venu d'ailleurs, pour moi, ici, c'est pas des gens qui sont arrivés, qui ont pris des choses qu'ils n'avaient pas à prendre, quoi. Ce qui est défendu ici, c'est bénéfique pour le pays, donc il n'y a pas à se poser de questions... Enfin, quand je parle de pays, je parle au terme territoire, quoi.
Il y a une image qui est très belle. Quand je te regarde, la Corentin, c'est en train de malaxer la pâte pour les tartes de midi. C'est ce mur derrière toi, blanc crème, où tous les prénoms sont inscrits avec le petit marquage du temps, avec la bonne hauteur de chacun.
C'est quand même classe, quoi, de voir tous ces gamins. Tu vois ceux qui ont grandi. En plus, il y a les dates à chaque fois que la taille a été prise. C'est les choses d'habitude que tu vois dans les maisons avec trois noms. Et là, on se rend compte à quel point c'est un peu une grande famille ici, quoi.
Glenn, il est où ton petit trait à toi?
Moi, je suis venu ici la première fois il y a 6 mois.
Ah oui, donc t'as pas encore posé ta marque?
Non, pas encore. Moi, je suis venu ici un peu parce que c'est des amis de la famille et donc c'était plus pour les rencontrer, quoi, vu que j'en avais entendu parler. Mais je me suis jamais trop posé des questions sur le collectif, je crois. Je trouve que c'est bien d'être en groupe et tout, mais je pense que ça demande beaucoup d'organisation, quoi. Pour qu'il y ait des bons rapports entre tout le monde, quoi. Ça demande d'être hyper au clair avec le dialogue entre les humains, quoi. Ce qui est vraiment pas simple, quoi. Franchement, faut parler, quoi.
Bon, t'es sûr que ça sent pas le cramé, là? Là, on rentre, on rend visite à qui?
On visite nos nouvelles acquisitions, c'est des vaches Highland, pour des vaches de petite taille très très rustiques, qui vont remplacer des vaches plus grandes qu'on avait jusqu'à présent. parce qu'on a une centaine, 120 hectares de pâturage ici. Et on se retrouve dans certaines zones très adaptées à ce genre d'animaux. Donc on a pris des Highlands et des Galloway, deux races écossaises, très très rustiques et plutôt sauvages. Mais là, on a réussi à les détendre un peu. Alors là, il y en a 6 là-bas, 3 ici, 9. Ça fait que dans quelques années, il y en aura une trentaine.
Et si on continue comme ça, le bestiaire, il y a qui autour de ces Highlands ?
Allez, on a 7 chevaux de trait de grande taille qui nous servent pour la forêt et puis les travaux agricoles. On a une bonne dizaine de vaches aussi déjà, quelques laitières et les autres pour la viande. Et une cinquantaine de brebis laitières aussi. Voilà. Quelques chèvres, puis des volailles, toutes sortes de volailles. En fait, on est en autonomie alimentaire sur la viande, sur une grosse partie des jardins, les céréales. Sans être du tout en autarcie, en tout cas, on a envie d'avoir notre subsistance alimentaire quoi, au maximum. Après, on ne se gêne pas pour acheter des saloperies au supermarché. C'est bon quand même, les cochonneries.
Et puis les terrains, alors il faut quand même parler, parce qu'on n'a pas encore évoqué ce qui fait la spécificité de cette communauté ici en Ardèche, c'est la foresterie.
Ouais, alors il y a plusieurs trucs ici. Au départ, c'est d'abord une ferme, et on occupe à peu près 300 hectares. Il y a une partie qui est en location, souvent verbale. Il y a une partie qui est en location officielle, notamment avec la fondation Fonds de Terre Européenne. C'est la fondation qui a été créée par Langomaille, qui permet de mettre tous nos meubles et immeubles dans une fondation de manière pérennisée. Il n'y a pas d'héritage ici, quoi. Même si ceux qui participent décèdent demain, les enfants ne sont pas légitimes d'hériter. Ils sont légitimes d'y rester s'ils veulent, mais pas d'hériter. C'était une démarche qu'on a toujours voulu avoir. Donc aujourd'hui, nous, on a été... Je fais partie des enfants de ceux qui ont fabriqué cet endroit. Et il est maintenant dans les mains de la Fondation de Langomaille. Ce qui fait qu'il est forcément disponible pour ceux qui ont envie d'y mettre les pieds, quoi. Et ça apaise plein de tensions liées à la propriété privée. Beaucoup de collectifs s'effondrent à cause de la propriété privée. Donc tu participes le temps que tu as l'énergie. Et puis après, bah, si tu veux, tu te tailles, mais... En tout cas, il n'y a pas écrit que tu vas avoir des billes parce que tu as participé ou pas, quoi. On a des hauts et des bas, comme tout le monde, mais c'est passionnant. Pour les gros, je rentre. Donc, en tout cas, le fait d'être ici, c'est... nous, on est engagés ici, on vit ici. Moi, ça fait 51 ans que je suis là. Et voilà, j'ai fait de la charpente, j'ai fait des baraques dans le pays. On travaille la forêt avec les gens. On fait plein d'activités avec les gens du coin. On a plein d'amis, on serait pas ici sinon, quoi. Et on n'est pas du tout reclus dans notre coin, machin. Non, moi, tout ce que j'ai appris, c'est parce que les gens du coin aussi m'ont montré des trucs. C'est du partage, c'est ensemble.
Est-ce que depuis le temps, Gabin, ça fait combien de temps que tu es là ?
Alors moi, ça fait 6 ans que je passe ici. Ça fait 3 ans ou 2 ans et demi que j'ai décidé d'habiter ici, avec les gens.
Qu'est-ce que tu as découvert ici ?
Alors moi, je suis venu du coup en stage, du coup en seconde. Je suis venu ici parce que mes parents étaient allés au Salon Primevert à Lyon, où il y avait du coup le RAF qui avait un stand.
Le RAF, il faut décrypter.
Le RAF, du coup, c'est le réseau des alternatives forestières. Et du coup, il y a Trenas qui fait partie de ce réseau. Et il y avait des brochures. Ça expliquait un peu ce que c'était ici. Une autre approche, une autre vision de la forêt que ce qu'on peut voir traditionnellement, entre guillemets. Enfin,
on prélève, on ne coupe pas, des coupes rases.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'a pas mal plu. Il y avait une photo avec les chevaux, du coup. J'ai appelé et on m'a dit « Ouais, c'est pas une entreprise classique et tout. » En fait, on m'a vite fait expliquer que c'était une communauté. Nanana. Mais moi, j'avais 16 ans et je savais pas du tout que ça existait parce que moi, je venais de Lyon. Et au début, c'était un peu compliqué parce que c'est hyper impressionnant, quoi. Enfin, moi, je suis de nature timide et du coup, je suis arrivé là-dedans. Je fais « Ouais, c'est quoi ça ?» Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que moi j'avais fait des stages en paysagisme à la ferme où là t'as vraiment le truc du patron. Enfin en paysagisme, je faisais le balai et tout, c'était pas évident quoi. Et ici ça m'a vraiment plu où il y avait pas ce truc de hiérarchie en gros. Et le truc le plus délirant, c'est qu'en fait avant j'avais pas de pote qui avait 60 ans quoi. Ça m'a bien fait kiffer.
après tout ce qui se passe autour. C'était vraiment bien.
Imagine, exercice un peu difficile, que tu t'adresses donc à quelqu'un de ton âge qui vit encore à Lyon ou dans une grande ville, que tu essayes de lui expliquer en quelques mots la philosophie, ce que l'on appellerait la philosophie de Longomaille. Tu lui dirais quoi?
Bah déjà, je dis souvent que c'est un mouvement qui a 50 ans. Les gens qui ont fait ça ont monté quelque chose qui dure sur le long terme. Quoi. C'est quand même hyper balèze, moi, je trouve. Et que c'est un retour à la terre et... ce que je leur dis souvent, c'est le pouvoir du groupe. Enfin, d'être ensemble, enfin, c'est quand même, tu peux surmonter une montagne de problèmes. Tout le monde se soutient, même s'il y a des... Enfin, tu peux avoir des tensions et tout, c'est normal. Mais tu as quand même ce groupe qui est soudé. Tu comptes les uns sur les autres et ça fait que tu gravis les échelons comme ça. Et après, des nouvelles valeurs que j'ai apprises, quoi. Enfin, ça met de la pêche, quoi. T'as vachement de monde. En plus, ici, ça brasse, enfin... Il y a pas mal de monde qui passe, du coup tu rencontres plein de gens et tout, c'est vraiment cool. Tout ce que j'avais vu dans les entreprises, dans les lycées et tout, tout ça, ça s'est déconstruit dans ma tête parce que enfin, il n'y a pas que le schéma classique qu'on nous apprend à l'école ou que les parents, enfin, essayer d'avoir une autre vision du monde en fait, pas avoir une seule en mode le capitalisme et tout ça quoi, grossièrement, et de se dire qu'on peut fonctionner différemment.
Tu lui en as voulu à un moment donné à Lolo d'avoir buté ses chiens ou bien t'as trouvé que le geste était légitime?
Non, je lui en ai pas du tout voulu parce que moi je me suis dit si c'est moi qui étais tombé dessus, ouais, t'es peut-être pas été. Enfin, je savais pas du tout comment j'aurais réagi, mais. En tout cas, non, je suis pas du tout en mode il a fait des conneries. Et après, bah oui, le procès ça va être à l'ouverture de la chasse. Du coup, ça va être sympa, quoi. Ouais, ils ont bien choisi le moment. Et après, bah, on verra par la suite comment ça va se passer. Mais je pense qu'il faut faire attention.
Tu vas faire quoi? Je vois que c'est un outil électrique que tu as dans tes mains.
Ouais, bah là, je vais tester une clôture. Parce que du coup, on protège les parcs avec les clôtures. Soit pour pas que les sangliers passent, soit pour pas que les vaches sortent. Et là, du coup, je vais essayer de voir si ça marche.
On se retrouve ce soir.
Ouais.
Ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve toujours.
Bah, ça, c'est cool.
Merci, Gabin.
Le lendemain, au réveil, visite de l'essentiel, visite de l'atelier menuiserie, car la filière bois est maîtrisée à Trénas depuis au moins 2 décennies, du début à la fin, de la coupe à la charpente. Et c'est ce qui fait sa spécificité, ce qui fait sa renommée, ce qui fait qu'ils sont là-dessus, demandés un peu partout. Il y a l'atelier menuiserie qui est là. Gabin, c'est toi qui t'y colle. Description du lieu.
On a tout refait, du coup, on a tout habillé en bois, en Douglas. Plus tard, on va détruire le mur pour agrandir la menuiserie. Parce qu'on a beaucoup de machines de menuiserie, mais on manque de place. Mais ça sera un chantier prochain.
Lolo, ce qui est pas mal, c'est que Gabin, qui représente donc ce qui... on va dire la nouvelle génération, parle d'avant, parle d'après, parle des choses qui vont devoir se faire. Toi, peut-être qu'on peut, revenir au début de la filière bois, de la façon dont elle s'est installée ici, à Trénas.
Ouais, la filière bois, c'est d'abord notre environnement. Autour de la ferme, il y a pas mal de forêts, des centaines d'hectares de forêts. Et nous, un peu par défi, un peu par... en étant un peu choqués par le comportement des structures forestières, on s'est dit qu'on allait faire une forêt-école. Un peu sans tout massacrer, quoi. Dans les milieux un peu alternatifs, la forêt de Trénas, c'est un peu une référence dans le mode de gestion et puis le résultat économique aussi qui est proposé par ce mode.
Alors, en deux mots, la philosophie générale qui est celle aussi du réseau pour une alternative forestière, ça serait quoi?
Alors, en deux mots, je pense que chacun de nous a le bon réflexe quand il est dans un milieu naturel. Et la forêt, elle a besoin de nous aujourd'hui pour s'en sortir. On a besoin d'elle pour survivre. Bon, il faut qu'on collabore, quoi. Il faut qu'on arrête de se taper sur la gueule. Voilà, je parle comme si la nature nous répondait, mais elle nous répond, hein. par des ouragans, par des incendies, elle nous répond. Hein. Donc si on vit dans un endroit, moi je crois pas mal aussi à la situation d'être quelqu'un d'un endroit. La réponse ici qu'on a pu proposer, elle est assez facile parce que il y a beaucoup de bois qui est présent. La structure géographique est quand même complexe. On est dans des pentes et dans des zones rocailleuses et tout. Donc elle nous impose de bosser, sauf si on veut tout casser, de bosser délicatement. Et le cheval a évidemment été une solution. Alors le cheval, il est intéressant parce qu'il va effectivement se faufiler entre les bois. En gros, là où nous, on passe, un cheval, il passe. On n'est pas obligé de créer des lignes droites. On n'est pas obligé de déformer une forêt en faisant des cloisonnements qui sont des systèmes de prélèvement pro-industrie, quoi, pro-mécanisation. Rationaliser la nature, c'est pas la solution. En tout cas, mais par contre, nous, un petit peu, voler un peu quelque chose là-dedans en étant assez délicat pour que ça ne se voit presque pas, c'est une solution parce qu'on tire un revenu de ça malgré tout et aussi on tire du matériel dont on a besoin pour construire, pour se chauffer. Mais si à chaque fois on détériore la surface qu'on utilise, et bien en fait on va toujours devoir aller plus loin pour prendre des récoltes. C'est dans ce sens-là que je dis que si on est un peu observateur et qu'on est un petit, qu'on a envie un peu que ça dure, et bien on ne va pas tout déglinguer. Et beaucoup de gens comptent sur nous pour propager les dimensions qu'on a mises en place.
Ils font appel à vous, il y a des chantiers un peu partout.
On fait appel à nous pour de la prestation, et surtout il y a des gens qui viennent se former ici. Et ça, c'est quand même une sacrée base à Langomaille, où on est toujours, on est comme une éponge aussi, on absorbe ce que les autres nous apportent, on donne un peu, et c'est toujours, voilà, du coup on change tout le temps. C'est pas rigide, quoi. Et cette non-rigidité, parfois, elle nous déstabilise. Parce que, voilà, on peut comparer. Moi, quand je suis arrivé à Langomaille, et puis aujourd'hui, il y a quand même des sacrées différences. Des fois, je suis perdu sur les nouvelles propositions des gens arrivant. C'est plus la même discussion, parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement de précarité qui s'est mise en place dans le monde, tellement de violence partout, que finalement, la lutte contre le capitalisme, elle est importante. Mais on s'aperçoit que la lutte pour le quotidien, elle est encore plus nécessaire. Et plus, voilà, il faut réagir plus vite.
On y va dans cette forêt qui nous attend. D'ailleurs, je crois qu'il y a la moitié de la communauté, on est une petite dizaine là, à avoir envie de la faire, cette balade en forêt, d'aller à l'essentiel.
En route.
Allez, on y va.
Allez. T'as vu avec Louis ?
Emmanuel, on est dans une partie de la forêt qu'on voit bien.
On n'est pas dans une partie, on surplombe la forêt dans laquelle on travaille.
La femme que tu es y a trouvé sa place, c'est celui avec les animaux.
Oui, avec le débardage à cheval. Ouais. Grâce aux chevaux, finalement, on y a trouvé une place collectivement. Parce que quand tu travailles avec les chevaux, tu travailles avec les bûcherons. C'est un ensemble. À l'époque, c'était plutôt les gars qui partaient en forêt. Et nous, on avait envie d'y aller, quoi. Et moi, j'avoue que, pareil, mécanisation, la tronçonneuse, ça ne me parle pas. Et pour moi, les chevaux, eh ben, c'était une manière d'y aller avec l'équipe, quoi. Et donc, on a appris, on a rencontré un débardeur professionnel qui s'appelle Florent Dalloz, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement compétent, qui a poussé vraiment le débardage à un niveau incroyable, et la relation avec l'animal à un niveau incroyable, parce qu'il travaille même à la voix, uniquement à la voix, et les chevaux font ce qu'il leur demande, et il nous a transmis ça, et c'est quelque chose d'incroyable. Il y a des moments de bonheur pur, hein, quand tu travailles avec l'animal, et ça devient fluide, et on est ensemble. Voilà. C'est comme si... il y a une énergie commune qui se met en place, on soulève les charges ensemble, on se dirige entre les arbres ensemble, et des fois, c'est féerique, c'est incroyable. Je pense que les chevaux, ils prennent plaisir, tu vois, j'ose dire ça. Et puis quand tu travailles d'une manière précise, et je veux dire, quand tu fais de la coupe rase, ben voilà, tu coupes les arbres, ils tombent, blam, ça fait du bruit, et puis c'est terrible en fait. Mais quand tu rentres dans une forêt, que tu vas... observer la lumière, tu vois, rechercher ce que toi, tu veux favoriser. C'est toute une réflexion. Et puis, tu as un arbre là, un autre là-bas, tu t'arrêtes, tu réfléchis avec les copains. En fait, c'est complètement une autre ambiance qui fait que tout le monde a sa place, oui. Parce qu'on vit dans cet endroit-là, on le ressent et on essaye d'y aller en étant le plus fin possible. Et en essayant de comprendre la dynamique de la forêt et de voir comment nous, on peut la favoriser et comment on peut prélever le bois dont on a besoin sans détruire.
On parle parfois de bûcherons-cueilleurs.
Oui, c'est ça, bûcherons-cueilleurs.
On va cueillir du bois en forêt. C'est une bonne, un joli mot. Ouais. Et après, on a même fait des abattages à la hache et à la loube. Alors là, c'est le pied, parce qu'il n'y a plus le bruit de la tronçonneuse, tu vois.
La loupe, c'est quoi? C'est une serpe?
C'est une grande scie. C'est complètement différent, quoi. Déjà, tu travailles à deux, t'as pas ce bruit-là. Moi, il y a des fois, avec les chevaux, là, quand je suis au milieu, c'est pas toujours facile. Mais moi, mon rêve, ça serait qu'on arrive à être suffisamment nombreux, avoir suffisamment de matériel d'abattage à la main pour ne faire que des chantiers à la main. Mais ça viendra. On a fait aussi le choix sur notre forêt d'en faire une forêt école. Donc à chaque fois qu'on est allé y travailler, à chaque fois ça a été un moment de transmission. Et on y rentrait à 30, 40 personnes. Et c'était des moments incroyables parce que ça nous permettait de discuter forêt ensemble, d'apprendre ensemble, de confronter nos ressentis, nos expériences, nos savoir-faire. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est une forêt qui n'est pas du tout homogène, parce qu'elle est issue du monde agricole. Je peux dire qu'il y a 80 ans, ici, tout était cultivé. Ça se voit d'ailleurs, il y a plein de murettes avec des terrasses. Et ils s'y cultivaient des céréales. Et puis les arbres ont poussé. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fonction de la période où ces parcelles ont été abandonnées, tu as des réalités forestières qui sont très très différentes. Il y a un endroit où ici tu as vraiment un couvert forestier qui ne doit pas avoir plus de 80 ans. Des pectinés, des sapins pectinés qui se sont répandus un petit peu partout. Et de l'autre côté du chemin, en fait, tu vas retrouver des merisiers, des frênes, des érables qui sont des arbres beaucoup plus jeunes. Et c'est beaucoup plus fouillis et très hétéroclite. Et j'ai oublié de parler des plantations, parce qu'après guerre, quand les gens sont partis, quand il y a eu la déprise agricole, et que les gens sont partis, ils ont planté du Douglas. Donc là, on va arriver dans une parcelle qui a été plantée, je ne sais pas, moi, il y a 60 ans, à peu près, qu'on a déjà éclairci une fois. Et tu vas voir la différence d'ambiance. Ça
là, ça voir. Devient plus noir. Les arbres sont très élancés, ils peuvent faire jusqu'à 50 mètres.
Le Douglas, c'est impressionnant parce qu'il monte, c'est un colosse, quoi. Quand tu t'es à son pied, on dirait la patte d'un éléphant ou d'un mammouth. C'est assez impressionnant.
Mais en haut, c'est là où il y a tous les piafs là, qui braillent. Là. Souvent, le Douglas, il n'accueille pas les oiseaux parce que c'est sombre et trop serré. Et dès qu'on intervient un peu, qu'il y a un peu d'éclaircie, ils rentrent dedans. Et c'est eux qui amènent les graines. En fait, nous on bosse comme des feignants. On laisse faire les bêtes, les sangliers font un peu des trous, ça fait des graines qui germent, les oiseaux ramènent des trucs d'ailleurs, ça se passe tout seul, tranquille.
Je crois que la forêt, elle sait faire, hein. Elle est là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Donc autant la regarder faire. Et après, ce qui a été génial, c'est que quand on a voulu acheter cette forêt, on a lancé un appel à dons, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Et on a présenté ce qu'on en avait envie d'y faire. Et c'est incroyable le nombre de gens qui ont réagi et qui nous ont soutenus pour l'acheter. On fonctionne comme ça à Longomaille, c'est que dès qu'on a des projets, des nouveaux projets, que ce soit une nouvelle ferme ou des forêts, eh ben on lance des appels à dons et en expliquant ce qu'on veut y faire. Et c'est super parce qu'il y a plein de gens qui nous soutiennent et ça c'est assez incroyable.
À Longomaille, c'est la fin. Remerciements à Vincent Brengart, avocat de Manuel, alias Lolo, et à toute la communauté de Longomaille à Trénas pour leur accueil et leur confiance. Le procès, autour des chiens de chasse abattus, aura lieu le 19 novembre 2024 au tribunal de Privas, préfecture de l'Ardèche. Nous y serons et nous vous relayerons les délibérés. En attendant, n'hésitez pas à leur rendre visite et les soutenir. Et si vous voulez plus d'informations sur le fonctionnement du mouvement Longomaille, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet prolongomaille.ch. Pagaille, c'est sur Blast. Et si vous aimez, partagez et n'hésitez pas à vous abonner pour que vive une information indépendante.
Une création
Blast.